commencer cet après-midi qui est, comme toujours, très copieuse. Donc, la première séquence, nous allons écouter Marianne Oguez-Yomba et Fabrice Bourlaise. Je pense qu'on fera la discussion à l'issue des deux exposés. Et on aura une deuxième séquence avec un exposé de Catherine Lavallard et Serge Yomba. Voilà, donc le premier... Vous verrez que donc nous reprenons un peu les items qui sont parus dans le livre Silicette sur le corps parlant, qui reprend donc, qui prépare le congrès de l'AMP qui aura lieu à Rio fin avril. C'est un livre que je vous recommande d'acheter, parce que c'est un livre qui fait le point sur un certain nombre de concepts actuels. Sur la question du corps, qui est organisée autour de la question du corps, mais au fond qui permet de, à chaque fois qu'il y a un congrès de l'AMP, il y a un livre qui est fait par les membres de l'AMP et qui fait un peu le point sur la question qui va occuper le congrès avant le congrès. Voilà. Et donc il y a un certain nombre d'items, de concepts qui sont précisés. Alors, dans les deux exposés qu'on va écouter, je pense que c'est autour de la question de la sublimation, la question de l'escabeau. Qu'est-ce que c'est que l'escabeau? Qu'est-ce que c'est que la sublimation à l'heure actuelle? Comment on entend ça? Donc, voilà. Donc, je vais passer la parole à Marie-Hélène, tout de suite.
Merci. Donc, je fais une brève introduction, en fait. Donc j'ai intitulé mon introduction Sublimation et symptômes, Sublimation et symptômes, le ready-made du Champien. Donc j'ai proposé d'examiner lors de cet après-midi préparatoire au prochain congrès de l'AMP. J'ai derrière moi la superbe affiche. Le concept de sublimation dans la perspective dégagée par Jacques-Alain Miller dans son texte de présentation que vous trouvez dans le CI7. Quelle est cette perspective? Le point central est le suivant. Il y a un fait, et ce fait, c'est que la psychanalyse change. Et en dépit, dit Jacques-Alain Miller, en dépit de notre accrochage à des mots et à des schèmes anciens. Et le congrès de l'AMP s'inscrit dans l'effort continué de rester au plus près de l'expérience pour pouvoir la dire sans s'écraser sur le mur du langage. Pour cela, Jacques-Alain Miller nous propose une opération de substitution. Il s'agit de substituer à l'inconscient freudien, structuré comme un langage, le par-lettre, nom inventé par Lacan dans son dernier enseignement, pour penser l'inconscient à partir de la parole et non de l'inconscient. Pour penser l'inconscient à partir du mystère de l'union de la parole et du corps, le mystère de l'emprise du symbolique sur le corps. Nous sommes à l'époque du par-lettre et nous analysons le par-lettre. Voilà le changement proposé par Jacques-Alain Miller. Et bien évidemment, il nous reste à savoir le dire. Et donc, pour apprendre à le dire, Jacques-Alain Miller met en avant deux concepts du dernier enseignement de Lacan, eux aussi de l'époque du par-lettre, les concepts de symptômes et d'escabeau psychanalytique. Le symptôme surgit de la rencontre primordiale, contingente, traumatique de la parole, pas n'importe quelle parole, une parole qui est dite de quelque part, une parole de la langue familiale, une parole qui est un dire. Et il y a cette rencontre entre cette parole et la jouissance du corps. À condition de définir ici le corps par la substance jouissante, le corps comme ce qui s'auto-affecte sur un mode réflexif auto-érotique. Et donc cette rencontre traumatique fait événement de corps, elle creuse une marque creuse. Pourquoi ? Parce que c'est une marque qui est effacée, d'où surgit le symptôme. Symptôme qui est la répétition, la réitération de la jouissance traumatisée, opaque au sens. Et donc l'être et le sens viennent après coup. Le refoulement freudien, conçu par Lacan comme la substitution d'un signifiant à un autre, autrement dit, vous reconnaissez là la formule de la métaphore, eh bien, cette métaphore, elle est branchée sur l'événement de corps, et cette substitution vient donner une enveloppe formelle de l'événement de corps. L'escabeau psychanalytique, lui, trouve son point de départ non dans la jouissance du corps, mais dans la jouissance de la parole, c'est-à-dire dans ce qui se déporte hors du corps. Lacan a identifié cette jouissance de la parole à l'organe phallique, qui est hors corps, qui est fondamentalement disharmonique au corps, qui jouit pour lui-même, qui condense et isole une jouissance à part, qui se répartit sur les objets petit a. Et Jacques Alaminer note que la jouissance phallique de la parole donne naissance aux grands idéaux du bien, du vrai, du beau. L'escabeau psychanalytique, c'est ce sur quoi le parler-être se hisse pour se faire beau, pour s'élever lui-même à la dignité de la chose. L'escabeau, c'est donc à la fois la sublimation freudienne, le narcissisme et l'être. Se croire maître de son être, ce qui est une négation de l'inconscient, et bien évidemment un maître beau au sens où la beauté est la dernière défense contre le réel. Donc on reconnaît la formule générale que Lacan a donnée de la sublimation dans le séminaire 7, comme ce qui élève un objet à la dignité de la chose, das Ding, la jouissance exclue du langage, conçue comme une sphère close sur elle-même, un pur silence qui est protégé par la barrière du bien et du beau, et finalement à laquelle on n'accède que par transgression. Mais ici, ce n'est pas un objet qui est élevé à la dignité de la chose, c'est le parler-être lui-même. La parole lui décerne un être, toujours après coup, dont est séparé le corps. Le corps n'est pas du registre de l'être, il est du registre de l'avoir. D'où l'escabeau imaginaro-symbolique, pourrait-on dire, par où le parler-être érige l'image de son corps, ses identifications, ses idéaux, sa jouissance phallique, son fantasme, sa folie du sens. Le parler-être est divisé entre escabeau et symptôme, dont la jouissance opaque, elle, au contraire, exclut le sens. On pourrait dire que l'escabeau est un traitement sublimatoire du réel du symptôme. Et Jacques-Alain Miller note que faire une analyse, finalement, c'est travailler à la castration de l'escabeau pour mettre au jour la jouissance opaque du symptôme. Mais on pourrait dire qu'il y a escabeau et escabeau. D'ailleurs, Lacan a écrit escabeau, S-K-B-O, comme la beauté. Il en a fait des initiales, des lettres. Et donc, finalement, c'est là que nous avons à prendre de la graine de l'art de l'époque du parler-être. Comme le disait Lacan, les artistes précèdent toujours le psychanalyste. Car les artistes de l'époque du parler-être sont des fabricants d'escabeaux destiné à faire de l'art avec le symptôme, justement, avec la jouissance opaque du symptôme. Ce sont des fabricants d'escabeaux symptômes. C'est le pari de cet après-midi, donc, de prendre de la graine de l'art. Dans son texte de présentation, Jacques-Alain Miller parle de la performance de James Joyce, qui fait converger le symptôme et l'escabeau. Joyce, dit-il, a créé une littérature dont la jouissance est aussi opaque que celle du symptôme et qui n'en demeure pas moins un objet d'art élevé sur l'escabeau à la dignité de la chose. Dans ce texte, il évoque aussi d'autres initiateurs comme Arnold Schoenberg dans le domaine de la musique avec la composition atonale dodécaphoniste et Marcel Duchamp dans le domaine des beaux-arts. Et donc vous trouverez dans le CILI 7 un article intéressant d'Hervé Castanet qui s'appelle Escabeau et entre parenthèses et Duchamp, auquel je voudrais donner une petite prolongation. Il met l'accent sur la typographie Escabeau, donc inventée par Lacan en 75 dans son texte Joyce le symptôme. Et Hervé Castanet note ceci, que cette typographie dénude le réel auquel l'artiste se confronte et que les sublimations possibles voilent. C'est-à-dire qu'au cœur du beau, il y a toujours ces lettres, SK, énigmatiques, hors sens. Un réel est dénudé, ouvrant à un usage pragmatique, note-t-il. Et il ajoute, avec son symptôme, soit la façon de bricoler singulièrement avec l'incurable du réel, chaque créateur veut grimper sur l'escabeau de l'œuvre. Il sublime. Et donc, il se réfère, pour illustrer ça, au « ready-made » de Marcel Duchamp, ce dont je voudrais parler un petit peu. Donc, avec ces « ready-made », Marcel Duchamp veut dynamiter l'ontologie de l'art, rendre toute définition de l'art en termes d'être impossible. C'est dire si le point qu'il vise touche au réel. Il veut faire exister le ready-made et non le faire être. Si on reprend la distinction fondamentale soulignée fortement par Miller dans son cours « L'être et l'un », entre l'existence et l'être, entre l'existence et l'ontologie. Comme le note Hervé Castanet, je le cite, « En libérant la création dite artistique de toute intervention humaine prise dans les jeux symboliques esthétiques de la sublimation, Duchamp tente d'imposer avec les « ready-made » un bout de réel sans ordre ni loi. » Je soulignerai que l'invention du ready-made par Marcel Duchamp s'est faite en plusieurs temps. Il y a d'abord eu son geste inaugural en 1913 avec la célèbre roue de vélo fixée sur un tabouret de cuisine, la fourche en bas. Et puis il y a eu le moment de la nomination en 1915 à New York. Et puis le temps de la théorisation dans les années 40-50. Je cite Marcel. Donc, en 1913, j'eus l'heureuse idée de fixer une roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine et de la regarder tourner. À New York, en 1915, j'achetais dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j'écrivis en prévision du bras cassé. In advance of the broken arm. C'est vers cette époque que le mot « ready-made » me vint à l'esprit pour désigner cette forme de manifestation. Il est un point que je veux établir très clairement, c'est que le choix de ces « ready-made » ne me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d'indifférence visuelle, en fait une anesthésie complète. Cette fameuse liberté de l'indifférence est quelque chose de central, tant dans la manifestation du ready-made que dans l'art de vivre de Marcel Duchamp, dans son mode de jouir. Il s'agissait de choisir un objet qui ne l'attirait ni par sa beauté, ni par sa laideur, de trouver un point d'indifférence dans son regard sur lui. Le choix, note-t-il, n'a pu se porter que sur un petit nombre d'objets disparates, hétéroclites et différents les uns des autres. Pour Duchamp, le ready-made, cet objet fabriqué en usine, qui n'est pas fait à la main, est une manière de nier la possibilité de définir l'art. D'où la difficulté, d'ailleurs, de définir le ready-made lui-même. Pour Duchamp, Bernard Marcadet, dans sa passionnante biographie de Marcel Duchamp, note que le ready-made est lui-même une opération, une critique en acte de deux préjugés esthétiques. Premièrement, l'art qui serait un savoir-faire de la main de l'artiste, et deuxièmement, le goût comme choix esthétique. Pour Marcel Duchamp, qu'il s'agisse de bon goût ou de mauvais goût, ça n'a aucune différence. Il sort de l'opposition bon-mauvais. Ce qui est important, c'est d'éliminer le goût comme tel et d'ébranler l'ontologie esthétique. Duchamp dit ceci: « La chose intéressante pour moi était d'extraire l'objet de son domaine pratique ou utilitaire et l'amener dans un domaine vide de tout. » L'objet est coupé de son usage et donc de la chaîne du sens. L'inscription, l'autre point important, c'est qu'il signait, mais il signait de Duchamp. Pas par Duchamp, mais de Duchamp. Puis ensuite, par ce qui s'est inventé comme nom, Rose, c'est la vie. Rose, c'est la vie. Ce personnage féminin. Donc, il y a ça, et puis il écrit une inscription, il écrit une phrase. L'inscription que trace Duchamp sur le ready-made participe de cette réduction à zéro du sens. Par exemple, in advance of the broken arm, dans cette phrase, les mots sont connectés par la syntaxe, mais pas par le sens et la signification. Comme il le note, vous ne pouvez pas être en avance sur le cassé. À moins que vous imaginiez la chose et complétiez la phrase pour donner du sens. Et donc, il y a chez Marcel Duchamp un nominalisme littéral qu'il revendiquait et qu'il admirait beaucoup Mallarmé. Il admirait beaucoup Raymond Roussel et aussi Jean-Pierre Brisset. Donc ce nominalisme littéral qu'il revendiquait participe de sa logique d'indifférence, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de pouvoir choisir et ne pas choisir, où l'on reconnaît chez Marcel Duchamp une logique, une inconsistance logique qui nous rapproche de la logique du patou. Le ready-made est le produit d'un choix délibéré et d'un non-choix esthétique. Il est l'expression de ce que Duchamp appelait la co-intelligence des contraires. Donc l'autre point à souligner est qu'à l'origine, le ready-made n'est pas destiné à être exposé et à être contemplé. Le statut inaugural du ready-made est de passer inaperçu. Marcel le regardait en tournant la tête. Et d'ailleurs, il note, Marcel a très peu exposé et il ne voulait pas exposer. Il disait exposer, le mot ressemble à épouser. Donc, et on sait combien la question de la mariée, des célibataires, de la mise à nu et du même. Sont des questions absolument centrales dans son rapport à l'art. Voilà. Donc, pour Duchamp, lui, il insiste sur la nécessité de l'invisibilité, d'une certaine façon, du ready-made. Et d'ailleurs, c'est André Breton qui va faire entrer le ready-made dans le champ esthétique en 1934, justement en lui donnant une définition, ce que refusait Duchamp. Mais André Breton, lui, était beaucoup plus dans le tout, dans le systématisme. Et donc il donne la définition suivante, bien connue: objet manufacturé, promu à la dignité d'objet d'art par le choix de l'artiste. Donc on voit que pour Marcel Duchamp, c'est autre chose. Donc, En tout cas, ce qui est notable, c'est que par le biais des regardeurs, les ready-made du Champien deviendront des objets d'art. Et voilà ce que disait Marcel Duchamp, en convenait. Et voici ce qu'il note à ce propos. Le fait que les ready-made soient regardés avec la même révérence que des objets d'art veut probablement dire que je n'ai pas réussi à résoudre le problème qui consiste à essayer d'en finir complètement avec l'art. Mais il ajoute que seul l'humour peut sauver la situation. C'est-à-dire que même si vous éprouvez, dit-il, presque un plaisir esthétique à les regarder, vous savez par quel chemin d'humour il a fallu passer pour y arriver. Donc, pour terminer ce petit flash sur l'escabeau symptôme, je soulignerai que Marcel Duchamp disait, et là, c'est formidable, « Je suis mon propre ready-made vivant. J'ai voulu me servir de la peinture, me servir de l'art, comme pour établir un modus vivendi, une sorte de façon de comprendre la vie, c'est-à-dire probablement d'essayer de faire de ma vie une œuvre d'art. Mon art serait de vivre. Chaque seconde, chaque respiration est une œuvre qui n'est inscrite nulle part, qui n'est ni visuelle ni cérébrale. C'est une sorte d'euphorie constante. » Ajoutons cette confidence faite à Pierre Cabanne. Grâce à ma chance, dit-il, Marcel, j'ai pu passer à travers les gouttes. J'ai compris à un certain moment qu'il ne fallait pas embarrasser la vie de trop de poids, de trop de choses à faire. Il y a un éloge de la paresse chez Marcel. Donc, pas s'encombrer de trop de choses à faire, de ce qu'on appelle une femme, des enfants, une maison de campagne, une automobile. Et je l'ai compris, ajoute-t-il, heureusement, assez tôt. Comme il dit ailleurs, « I would be a monk and not a monkey ». Évidemment, enchanté par le jeu de mots, je serais un moine et non pas un singe. Mais c'est évidemment le jeu de mots qui l'intéressait. Et il dit la chose suivante, « Je n'alimenterai pas les influences, je ne copierai pas les autres, je ne me répéterai pas moi-même, ni n'inclinerai vers quelque goût que ce soit, y compris le mien. » Il a 16.
Merci Marianne. Thank you.